Des figures de cour ont une valeur symbolique importante pour le peuple Edo. Avec cette restitution de 113 pièces, dont plusieurs dizaines arriveront dès cette année à Lagos, les autorités néerlandaises posent le premier acte d'une politique de restitution, politique entamée en 2020 par un minutieux travail d'identification des œuvres présentes dans les musées hollandais. La Haye propose en outre aux autorités nigérianes de partager ses connaissances en matière de conservation du patrimoine.
5h43 en temps universel, RFI Matin, la suite, c'est avec Arnaud Pontus.
Merci Arthur Ponchelet, à tout à l'heure. RFI Matin au programme du prochain quart d'heure. La guerre en Ukraine, vue d'Afrique 3 ans après le lancement de l'offensive russe. L'Afrique a adopté une forme de neutralité stratégique, nous dit notre invité, Djenabou Cissé, chercheuse au sein de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Les matières premières avec Marie Pirolfan, gros plan sur l'aluminium russe, au cœur des nouvelles sanctions européennes contre Moscou. On sera aussi sur le terrain, en Ukraine, avec un grand reportage de Julien Chavannes, les Ukrainiens résignés après 3 ans de guerre. Puis il sera 6h, temps universel, le moment de retrouver Andréane Mellard en direct de Kiev pour notre édition spéciale. Et voici les sports avec Victor Missistrano. Bonjour Victor.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Le football d'abord et Liverpool qui continue de s'affirmer comme la meilleure équipe du moment.
Les Reds sont allés s'imposer à Manchester City 2-0 avec un 25e but en championnat de Mohamed Salah. L'Égyptien continue sur son rythme effréné et son équipe file vers la couronne. Désormais 11 points d'avance pour Liverpool sur Arsenal.
De quoi préparer sereinement le 8e de finale de Ligue des Champions la semaine prochaine contre le PSG.
Paris qui survole la Ligue 1, 4e victoire d'affilée hier, 3-2 à Lyon, doublé du Marocain Achraf Hakimi et joli but de l'inévitable Ousmane Dembélé, le meilleur buteur. Pas mal non plus en Espagne, la frappe lointaine de Luka Modric. À 39 ans, le milieu croate a aidé le Real Madrid à battre Gérone 2-0 pour revenir à hauteur du FC Barcelone en tête de la Liga.
Direction les parquets, le tableau complet de l'Afrobasket est connu, tournoi prévu en août en Angola.
Oui, les éliminatoires ont rendu leur verdict, la Guinée s'est qualifié in extremis en remportant un match décisif face au Kenya 57-44. Même chose pour le Rwanda qui a éliminé le Gabon 81-71. Le Nigeria s'est fait très peur. Défait lors de leurs 3 premiers matchs, les Nigérians ont remporté les 3 suivants, dont le dernier hier contre le Cap-Vert 77-62.
Deux équipes ont réalisé un carton plein dans ces qualifications.
Oui, 6 victoires en 6 matchs pour le Sénégal. Le choc avec le Cameroun a tenu toutes ses promesses 83-67. Après prolongation, autre sans faute, celui de la Côte d'Ivoire. À Antananarive, les éléphants ont terminé par un succès aux dépens de l'Égypte 82-76. Longtemps menés, les vice-champions d'Afrique ont renversé la situation en fin de match. Une bonne façon de travailler, selon le capitaine ivoirien Wafesa Fofana.
Un bon test pour nous, on se prépare pour la compétition dès maintenant. Là, en fait, le fait d'avoir été derrière, alors qu'on menait tout le temps les matchs, d'avoir trouvé les ressources pour revenir, ben là, on a vu qu'on a du cœur, du caractère et que quand on est sous contrôle, tout peut arriver. Voilà, on reste réaliste puisque les équipes elles progressent, sur le sud, ce qu'ils ont fait au JO, c'est incroyable. L'Égypte aussi, il faut les prendre au sérieux, ils ont vraiment une bonne équipe, des bons joueurs. Le Nigeria, s'ils ramènent leurs joueurs aussi, ça va être un autre combat. Donc il y a des équipes très sérieuses à prendre en compte. Donc je peux pas dire ouais non, on vient pour prendre l'or et fin. Maintenant il faut qu'on le construise. Bien sûr, on va travailler pour, mais voilà, on reste humble et on va travailler pour aller le plus haut possible.
Va faire ça Fofana avec Pauline Le Troquet. Première défaite sans conséquence pour la RDC, étriée par le Soudan du Sud 89-58. Aux États-Unis, le Congolais Bismack Biyombo continue lui de se faire une place en NBA chez les San Antonio Spurs. En l'absence de Victor Wembanyama blessé, le pivot né à Lubumbashi a réalisé cette nuit son meilleur match depuis son arrivée dans l'équipe il y a quelques jours. 10 points, 10 rebonds, mais défaite 114-96 face aux Pelicans d'Yves Missi. Le pivot camerounais auteur de 6 points et 16 rebonds.
Et puis le tour cycliste du Rwanda s'était lancé hier à Kigali.
Le Belge Aldo Tailleux porte le maillot jaune après sa victoire sur le contre-la-montre du prologue. En attendant la première vraie étape aujourd'hui, 158 km entre Rukomo et Kayonza, un parcours légèrement accidenté, mais ce n'est rien comparé à la suite selon l'entraîneur de l'équipe du Rwanda, David Louvet.
C'est le second impératif, on va dire. Il y aura forcément des échappés, il y aura forcément des Rwandais devant, il y aura forcément des grosses équipes qui seront représentées à l'avant. De toute façon, ici, toutes les étapes, enfin, c'est up and down, enfin, ça monte, ça descend. Mais bon, il y a quand même des étapes relativement difficiles. Les deux dernières étapes sont sérieusement corsées quand même, avec des arrivées, avec des passages en pavé. Et il y aura surtout les kilomètres qui commenceront à peser dans les jambes.
Des propos recueillis par Thomas Chen de Saint-Léger.
Merci, Victor Missistrano. À tout à l'heure.
RFI Matin.
Trois ans de guerre en Ukraine, ce 24 février 2025, trois ans jour pour jour après le déclenchement de l'offensive russe, les dirigeants de l'Union européenne sont arrivés tout à l'heure à Kiev. Parce que l'Ukraine, c'est l'Europe, a lancé il y a quelques minutes Ursula von der Leyen. Édition spéciale à suivre dans un quart d'heure maintenant, en direct de Kiev avec Andréane Mélard et ses invités sur RFI. On va d'abord s'arrêter maintenant sur la vision africaine de ce conflit. Depuis trois ans, l'Afrique a tenté d'adopter une neutralité stratégique face à cette guerre. Loin d'adopter une position commune, les pays africains composent au cas par cas avec les belligérants afin de préserver leurs intérêts économiques, politiques ou militaires. Notre invité Afrique pour en parler, Djenabou Cissé, chercheuse au sein de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Elle observe une diplomatie africaine plus transactionnelle qu'idéologique et résolument non alignée. Djenabou Cissé en ligne avec Lisa Fabian.
Bonjour Djenabou Cissé.
Bonjour.
Le 2 mars 2022, de nombreux pays africains se sont abstenus de condamner l'agression de la Russie contre l'Ukraine lors d'une Assemblée générale des Nations Unies. Trois ans plus tard, peut-on dire que l'Afrique a su rester neutre face à ce conflit ?
Oui, tout à fait. Le positionnement de l'Afrique vis-à-vis du conflit russo-ukrainien est resté globalement inchangé depuis 2022. Concernant justement ce fameux vote du 2 mars 2022, 28 pays avaient condamné l'agression, mais 17 exactement se sont abstenus, ce qui à l'époque avait été vu d'un assez mauvais œil par les pays européens et occidentaux, mais qui en réalité reflète davantage une neutralité, comme vous l'évoquez, plutôt qu'un soutien idéologique à la Russie. Il faut savoir que depuis au moins les années 90, les pays africains sont dans une dynamique de diversification de leurs partenariats. Il y a vraiment plutôt une volonté de pouvoir garder une liberté d'échange avec divers partenaires et donc de ne pas avoir de relations trop antagonistes et donc de ne pas choisir entre des camps. Donc on a même plutôt un retour à un certain non-alignement qui a été reflété à la fois par la crise russo-ukrainienne mais aussi par le conflit israélo-palestinien.
Ne s'agit-il pas aussi tout simplement de pragmatisme économique ?
Les pays africains importent au moins 30% de céréales en provenance de la Russie, dont 95% de blé. Et selon la CNUSED, au moins 25 pays importent plus du tiers de leur blé auprès de la Russie ou de l'Ukraine, et 15 pays importent plus de la moitié. Donc, suite à l'invasion, et suite notamment au blocage des exportations ukrainiennes en mer Noire, il y a eu une forte hausse du prix de la tonne de blé et donc de fortes craintes concernant l'approvisionnement des pays africains en céréales et donc concernant l'insécurité alimentaire. Donc tout ceci explique aussi cette position de neutralité.
Mais la Russie n'a-t-elle pas été avantagée en quelque sorte par ses relations historiques avec l'Afrique ?
Beaucoup des relations avec ces pays remontent justement à la guerre froide. Donc il y a des relations qui ont pu servir de terreau au développement de coopérations plus récentes. Et en particulier à partir du milieu des années 2000, sous l'impulsion de Vladimir Poutine. Il y a des accords de coopération militaire qui ont été conclus avec un certain nombre de pays africains et qui se sont notamment accélérés à partir du milieu des années 2010, et en particulier au Sahel. Du point de vue de certains pays africains, sans faire de généralisation, il est difficile de prendre le risque de s'aliéner la Russie en sachant que c'est un fournisseur de services sécuritaires importants. Ici, on a vraiment, encore une fois, une logique transactionnelle plutôt qu'une logique idéologique.
Dans ce contexte, quelle a été la stratégie de l'Ukraine sur le continent africain ?
L'Ukraine a décidé d'ouvrir un nouveau front contre la Russie sur ce continent, et en particulier au Soudan, où l'Ukraine a notamment déployé ses forces spéciales pour combattre les troupes de Wagner impliquées dans le conflit au Soudan. Et beaucoup plus récemment, il y a eu une grosse attaque à Tinzawatène, au Mali, à la frontière avec l'Algérie, qui a causé la mort de plus de 84 mercenaires de Wagner. Et en fait, l'Ukraine avait fourni des drones aux combattants Touareg qui opposaient donc les troupes maliennes et les troupes de Wagner.
Et vous pensez que cette tendance risque encore de se renforcer ?
On observe déjà cette ouverture de front par l'Ukraine qui souhaite vraiment combattre les troupes de Wagner et les troupes russes partout où elles sont présentes, mais aussi une offensive diplomatique avec l'ouverture de nombreuses ambassades, certaines des dernières en date étant en avril dernier en RDC et en Côte d'Ivoire, par exemple. Donc on a vraiment une implication récente de l'Ukraine, mais qui est assez offensive et qui gagnera, je pense, à se développer dans les prochaines années pour contrer l'influence russe, principalement.
Merci Jenna Boussissé.
La chercheuse Jenna Boussissé, qui travaille au sein de la Fondation pour la Recherche Stratégique, elle répondait à Lisa Fabian. Alors que l'on marque donc aujourd'hui les 3 ans de la guerre en Ukraine, le 16e paquet de sanctions contre la Russie doit être formellement adopté ce lundi par les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. On en parle avec vous, Marie Pirolfan, dans votre chronique des matières premières. Les 27 se sont donc accordés pour interdire les importations d'aluminium russe.
Oui, il faut préciser que cette mise au ban de l'aluminium russe n'est pas totalement une surprise pour la filière européenne. Tous ceux qui en achetaient s'y sont en effet préparés. Que ce soit par anticipation de sanctions à venir ou pour une question d'image, les importateurs ont considérablement réduit leurs achats en provenance de Russie. La dépendance de l'UE est donc faible. Aujourd'hui, l'aluminium russe représenterait moins de 10% de l'approvisionnement européen contre environ 50% avant la guerre. Les niveaux devraient encore maintenant diminuer. Les Européens se donnent un an pour supprimer totalement l'aluminium russe de leur carnet de commandes.
Et est-ce que cette décision européenne peut avoir un impact sur les prix de l'aluminium?
Alors sur le papier, oui, car les prix ont tendance à monter dès qu'il y a une restriction d'approvisionnement, mais parfois l'impact est mineur car le marché a déjà intégré que le produit allait manquer. Et c'est ce que les experts disent sur l'aluminium. Les cours ont déjà anticipé qu'il faudra faire sans l'aluminium russe. L'impact sur les prix devrait être aussi limité en raison de la demande qui est faible en Europe en ce moment. Mais même s'il n'y a donc pas de forte tension à l'horizon, cela n'a pas empêché les prix de réagir dans la foulée de l'annonce des Européens mercredi dernier.
Et Marie-Pierre, que va-t-il se passer pour l'aluminium russe? Est-ce qu'il va trouver d'autres débouchés?
Alors ce qui est certain, c'est que ces sanctions vont contraindre un peu plus la Russie à réorienter ses exports, ce qu'elle a évidemment déjà commencé à faire en exportant sans surprise beaucoup plus vers la Chine. Les importations chinoises d'aluminium russe ont grosso modo quadruplé entre 2021 et 2024.
Marie-Pierre Olfan, merci. On retrouve votre chronique des matières premières en ligne sur RFI.fr. La guerre en Ukraine, elle a déjà fait des dizaines de milliers de morts de part et d'autre et la population ukrainienne est aujourd'hui épuisée. Sur le front, l'armée résiste, mais les forces russes continuent d'avancer dans l'est du pays et c'est ce moment que Donald Trump a choisi pour engager des négociations directes avec Vladimir Poutine, ce qui a provoqué stupeur et inquiétude en Ukraine. Nous serons à Kiev dans quelques minutes en direct pour une édition spéciale. Je vous propose d'abord d'écouter un extrait du grand reportage réalisé par Julien Chavan, Boris Vichit et Glib Yegorov. Après 3 ans de guerre, les Ukrainiens résignés.
En route vers le front, on ne croise plus que des véhicules de l'armée, certains avec des brouilleurs anti-drones. Dans les villes, les magasins de surplus militaires ont envahi les rues. Les photos des soldats tués s'affichent sur les panneaux publicitaires. On construit encore de nouvelles fortifications, des bunkers enterrés, des tranchées sur plusieurs centaines de mètres. Nous sommes quelque part dans la région de Donetsk. La 5e brigade d'assaut nous accueille dans un lieu tenu secret, un point de stabilisation. En réalité, c'est un véritable hôpital de campagne. Le commandant Denis dirige cette unité médicale.
Ici, on peut apporter une aide médicale d'urgence aux blessés, on arrête les saignements, on stabilise leur état et on les envoie ailleurs pour un traitement médical plus poussé. Toutes les menaces sur leur vie, on essaye de les écarter.
Engagé au premier jour de la guerre, le commandant Denis nous répond assis sur l'une des tables d'opération, détendu, souriant, même si les opérations de secours sont de plus en plus dangereuses.
En ce moment, les conditions pour les évacuations sont devenues très compliquées parce que nos ennemis ont beaucoup de drones de reconnaissance et des drones kamikazes. Ramener les soldats blessés du front est devenu une opération militaire à part entière. Pour y arriver, l'unité médicale est mobilisée, mais aussi l'unité militaire. Nous devons utiliser l'unité de reconnaissance, l'unité d'opérateurs de drones et l'unité de brouilleurs pour donner la possibilité à notre unité médicale d'aller là-bas, de prendre notre gars et de l'amener ici. C'est pourquoi la situation autour de l'évacuation médicale est si compliquée.
Тобто, ну, зараз ситуація, тому ситуація з евакуом поранених дуже складна насправді.
Ici, interdiction de parler politique. Un militaire chargé de la presse y veille quand on demande au commandant Denis s'il s'imaginait encore combattre. 3 ans plus tard, il s'en sort avec le sourire.
Non, pas du tout.
Au début de l'invasion, on pensait tous qu'on allait mourir très vite. On en était persuadés.
Ми були впевнені в цьому.
Un grand reportage signé Boris Vichit, Glib Yegorov et Julien Chavanne. C'est à retrouver à 12h10, heure de Paris, ou 20h40. C'est aussi en podcast, bien sûr, sur le site de RFI, l'application RFI Pure Radio. Et si vous êtes sur les réseaux, je vous conseille d'aller regarder la vidéo de Franck Alexandre sur les 3 ans de ce conflit en Ukraine. C'est sur Facebook, Instagram et X. Dans une minute, le journal. Et nous sommes en direct de Kiev ce matin.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Après 3 ans de guerre en Ukraine, quel est le rapport de force sur le terrain? Que faut-il attendre des pourparlers entre les États-Unis et la Russie? À quoi ressemble le quotidien des Ukrainiens et des Russes? Quelles sont les conséquences économiques du conflit? Nous répondrons à toutes vos questions.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.
La chaîne WhatsApp de RFI compte désormais 2 millions d'abonnés.
Chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux à consulter sur votre téléphone nos résumés de l'actualité internationale, nos analyses et notre sélection des meilleures émissions de RFI.
Nous vous remercions pour votre confiance et votre engagement à nos côtés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est simple. Allez vite sur l'onglet Actu de votre application et venez rejoindre la communauté WhatsApp de RFI.